Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Radio Kai, la radio du quartier nord de Bruxelles, hébergée tous les 4e samedis du mois par Radio Campus 92.1, radiocampus.be et on écoute partout, tout le temps, sur radiokai.be. Radio, c'est comme radio, et puis Okai, c'est O-H-K-A-A-I.be. Radio, Okai.be. Radio Okai raconte tout ce que vit le quartier nord. Et ce mois-ci, et les deux suivants, Radio Okai s'est associé à Variété. Variété, c'est un nouveau lieu culturel, un lieu culturel rattaché à Bruxelles Laïque et il ouvrira dans quelques temps dans l'ancien cinéma Variété, à deux pas du quartier Nord. Avant d'intégrer ce lieu qui était en pleine rénovation, il y a des week-ends thématiques qui sont organisés dans des lieux différents, un peu partout dans Bruxelles. C'est une saison nomade en quelque sorte. En avril, ce Labo Chantier, c'est le nom de ces week-ends thématiques, et ce Labo Chantier se déroulait à Molenbeek, au Recyclart. Il était consacré à la thématique carcérale. Zone d'ombre, zone de soins, c'était son titre. C'était des conférences, des débats, des pièces de théâtre, des concerts, des rencontres qui rythmaient le temps du week-end. Alors Radio Okai y a été, avec Oumeima, Soufiane et Marwan, des habitants du quartier Nord. On a déambulé de conférences en performance. Et puis le dimanche, on a installé notre studio mobile au milieu de la cour de Recyclart. L'émission de ce samedi est donc la retransmission de cette émission live. On vous donne rendez-vous déjà au week-end suivant, le week-end des 23 et 24 mai. Alors là, ce sera à Train Ward, à Skarbek. La thématique du week-end, ce sera cartes, frontières et territoires. Et puis en juin, ce sera les 19 et 20 juin, au Théâtre de Poche, dans le bois de la Cambre, pour un week-end entier consacré aux utopies. Toutes les infos sur ces week-ends de Labo Chantier sont sur le site de Variété, le-variété-au-pluriel.be. Le-variété-au-pluriel.be. Bon. Je vous laisse en compagnie des sons et des énergies du week-end dernier. Et petite parenthèse, les énergies qu'on écoute derrière nous, ce sont les énergies de Place Nord, un autre lieu, un autre endroit, devant la gare du Nord, là où Radio Okai a posé son exposition C'est pas dit. Et ce sera jusqu'au 21 mai, à la gare du Nord donc. Allez, je vous laisse en compagnie des énergies du week-end variété. Bonne écoute.
Alors, combien d'ans ? Tu as quel âge toi ? Billy, tu as quel âge ?
8.
5.
9.
9 et ?
4 ans.
4 ans ? T'es les plus jeunes ?
9.
9 ? Ok. Moi ? Beaucoup, je vous le dis. Alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Pour s'amuser.
Pour s'amuser.
Et il y a quelques petites règles.
Il y a quelques règles, mais on va laisser les autres découvrir
quand
ça.
Ah oui.
Il y a quelques règles sur un papier. Pourquoi il y a des règles ici, on n'est pas à l'école. Aujourd'hui, on a avec nous Younes et Enes. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Enfin, quand vous voulez. Soyez à l'aise. Qui ont fait partie d'un stage qui s'est passé cette semaine, ici, au Recyclart, avec ArchiKids. Et du coup, avec d'autres camarades. Vous étiez combien en tout
17.
17 enfants. Ils ont construit tous et toutes ensemble cette belle cabane d'ici.
Alors, je m'appelle Andrea et je travaille à Bruxelles Laïque en tant qu'animatrice jeunesse. La plupart du temps, on vient dans les écoles pour faire des animations scolaires sur différents sujets sociopolitiques avec les jeunes. Mais ce week-end, on a le Labo Chantier Variété sur zone d'ombre, zone de soins. Donc on a voulu aussi impliquer les plus jeunes pour parler des règles et punitions. Le sens de la règle, pourquoi les règles sont là, sont partout. Qu'est-ce que c'est important pour les respecter, donc comprendre les règles. Du coup, pendant toute cette semaine, il y a un groupe d'enfants de 8 à 12 ans qui ont fait une cabane avec deux animatrices de ArchiKids. Et c'est la cabane qu'on peut voir aujourd'hui ici exposée au Recyclart, qui est très belle, très chouette, plein de couleurs. Et c'est deux enfants de cet atelier-là qui sont venus aujourd'hui expliquer aux plus petits leur processus de création de cette cabane. Et du coup, on a présenté la cabane aux petits enfants qui sont venus. On a raconté l'histoire de la cabane des enfants qui n'aimaient pas les punitions, écrite par Winola Ricordo. Et en base de ce conte, de cette histoire, on a un peu discuté sur l'importance de la règle, comme je disais tout à l'heure. Et les enfants de ce testage, ils ont préparé une charte de règles qu'ils ont pu lire, expliquer. Et à chaque fois, on a discuté pourquoi c'est important, pourquoi cette règle est là, elle est en place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Et voilà, les enfants étaient très participatifs. C'était, c'était très chouette.
Maximum 4 enfants à l'étage. Si cette règle n'est pas respectée, il ou elle doit avant tous descendre et attendre 5 minutes avant de remonter.
Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on a mis une limite de 4 enfants à l'étage seulement? Et du coup, pourquoi on a mis cette règle?
Moi aussi, parce qu'on peut tomber.
On peut tomber, parce et du coup, c'est une question de... C'est de sécurité.
Et aussi, il n'y a pas beaucoup de place.
Il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est une question de sécurité surtout, ok? Et pourquoi est-ce qu'on a mis après que si on ne respecte pas la règle, on doit attendre 5 minutes? Ça sert à quoi ça?
Ça sert à comprendre qu'il faut faire plus attention.
Ok.
Parce que 5 minutes quand même c'est long et du coup, on doit respecter et obéir.
Ouais. Ok.
Peut-être que les premières personnes qui sont venues, elles descendent parce qu'elles sont restées plus de temps. Tu vois, pour qu'il y en ait 5.
Ok.
Si on est 6, s'il y a une personne qui est venue et après il y en a d'autres qui viennent, il y en a cinq autres qui viennent, et bien par exemple, mais pas vraiment en même temps, et bien celui qui était le premier, ben il descend pour laisser la place aux autres parce que lui il est resté plus longtemps.
Donc Billy, elle aimerait ajouter une règle peut-être qui dise voilà, les gens qui sont à l'étage, ils ne restent pas
plus de
combien on met?
Une heure.
Non, une heure c'est long quand même.
Jusque 15 minutes.
Ok, on va mettre 15 minutes max. Voilà. Tout le monde est d'accord?
Oui, on n'a pas eu l'horloge là-dedans, donc on sait pas.
Et pourquoi on fait cette règle-là, du coup?
Pour que tout le monde fasse chacun son tour.
Billy, pourquoi tu mets cette règle-là?
Mais pour que tout le monde puisse y aller.
Ok.
Sans se faire mal.
Ok. Donc comme ça, tout le monde peut y aller un peu. Il n'y a pas une qui reste tout le temps ou un qui reste tout le temps, ok? Donc c'est pour ça qu'on met cette règle-là, c'est une question de... Équité, on va dire?
Ah, je veux dire quoi, équité?
Équité, qu'est-ce que ça veut dire, équité?
Équitable.
Égal.
Oui, tu peux être plus spécifique?
Être égal, que tout le monde peut monter et que pas que...
Tout le monde ait le même, que tout le monde ait la même occasion de jouer à la cabane, les mêmes opportunités. Donc on dit, ok, chacun... Il va y rester 15 minutes max, comme ça tout le monde a l'opportunité de monter. Ok, c'est ça, être égal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme deuxième règle?
Les enfants ne peuvent pas casser la cabane, sinon ils devront la réparer eux-mêmes.
Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir rentrer dans cette cabane hein, pour jouer, mais il faut quand même respecter les règles.
Il y a encore la 3, 4, 5.
Hein. Attends, il y a encore plus de règles, oui, ces gens-là. Hein. C'est plus strict qu'à la maison. Hein. Alors, si quelqu'un joue avec quelque chose qu'on a construit, avec tout notre amour, et la personne le casse, déjà, c'est pas chouette, non?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait après?
Bah, on doit essayer de réparer.
Comment? Pardon?
On essaie de les réparer.
On essaie de réparer ce qu'on a cassé?
Bah oui.
Oui. Puis, troisième règle?
Restez calme dans la cabane, sinon on doit sortir 10 minutes avant de revenir.
Pourquoi pensez-vous?
Si t'es agité, tu peux casser des trucs.
Pourquoi c'est important qu'on reste calme s'il y a d'autres personnes autour de nous?
Bah parce que sinon on va leur donner des coups.
Mal aux oreilles en plus.
Et peut-être qu'il y a quelqu'un à côté d'eux et du coup ils font ça et du coup ça peut faire mal.
Ça peut faire mal, ça peut déranger aussi si on n'est pas calme. Parce qu'il y a beaucoup d'espace qu'on utilise tous et toutes ensemble. Donc si on est seul, moi si je suis seule dans le métro, je vais chanter. Hein. Pourquoi on met ces règles là? Parce qu'on pense aux gens qui sont autour de nous. Ok?
Le respect.
Il faut respecter les autres. C'est pour ça qu'on a mis cette règle-là. Parce qu'on veut respecter les autres enfants qui utilisent la cabane. Et aussi les animateurs. On ne veut pas leur casser les oreilles non plus. Ok? On comprend?
Oui.
Oui? Quatrième règle?
Plus
fort. Très fort.
Les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas manger ni boire dans la cabane.
Alors, qui a moins de 8 ans ici? Levez la main. Sacha?
Moi j'ai 8 ans tout pile.
Moins de 8 ans?
Mais 8 ans ça pue. Ouais, 8 ans ça pue.
À 8 ans et à partir de 8 ans, on peut, mais moins de 8 ans.
T'as quel âge ?
16 ans.
Alors lève la main, t'as moins de 8 ans.
La 16 ans.
Qu'est-ce que tu penses de cette règle ?
6-1.
Rappelle-moi ton prénom.
Chloé.
Chloé, pourquoi tu es d'accord avec cette règle ? Toi qui as moins de 8 ans, tu ne peux pas boire ni manger à l'intérieur de la cabane. Toi, tu penses que c'est bien ?
Elle a moins de 8 ans, elle est d'accord.
Non, moi aussi je suis d'accord.
Parce que ceux qui sont plus petits, eh ben, ils peuvent renverser beaucoup de choses. Alors ça peut abîmer le bois.
Donc c'est une question de sécurité, parce qu'on ne veut pas glisser et se casser la tête, mais aussi de propreté.
Oui, mais c'est parce que aussi, s'il y a de l'eau qui tombe tout le temps, et ben, le bois va se casser.
Le bois s'abîme.
Et le reste.
Ouais. Ok. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est une cabane pour tous et toutes. Donc c'est un bien commun. Ok. C'est comme la rue, c'est comme le bus, c'est comme le train. Ok, c'est quelque chose pour tout le monde. Et du coup, quand c'est pour tout le monde, on doit faire en sorte que ça reste propre.
Bien entretenu.
Bien entretenu. Très bien, Billy.
Vous qui êtes spécialisée en animation pour enfants, sur la sociopolitique, quelle est l'importance de ces ateliers auprès des enfants ?
Alors nous, ce qu'on essaye, c'est toujours de leur faire réfléchir sur beaucoup des questions différentes. Parfois, ça veut dire que nous aussi, en tant qu'adultes, on doit réfléchir à beaucoup des questions auxquelles on n'avait pas réfléchi autant que ça. Et du coup, surtout quand on était enfant, mais du coup, on voudrait leur donner l'opportunité de découvrir déjà certaines questions depuis une très jeune âge. L'important, c'est de leur donner la parole, leur donner cette opportunité de s'exprimer, qu'ils apprennent à s'exprimer, qu'ils s'habituent à dire ce qu'ils pensent toujours en respect des autres qui sont autour d'eux. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'était très chouette parce qu'on a mis un plaid par terre, on s'est installé, on a discuté tous ensemble, les petits et les plus âgés. J'ai trouvé ça aussi très chouette, le fait qu'on mélange les générations, que les enfants des 5 ans puissent discuter avec les enfants des 8 ans, parce que ce n'est pas le cas à l'école, par exemple. Et dans les activités, on a surtout... on a tendance à les séparer par tranche d'âge, alors que là, il y a quand même une espèce de transmission des constructeurs vers les petits, et c'était assez chouette. Et voilà, l'important, c'est ça, c'est qu'ils puissent s'exprimer, pardon, sans se faire juger. On n'est pas là pour juger, on est là pour discuter, pour entendre leurs idées, pour les aider à argumenter. Et aujourd'hui, je pense que ça s'est très bien passé.
Alors, la cinquième et dernière règle.
On ne peut pas modifier la cabane, sinon on ne peut plus jouer pendant 10 minutes.
Modifier. C'est toujours 10, 4 ou 5.
Oh, c'est
parce
pas
que
grave.
Plus que 10, c'est trop.
Pourquoi vous ne voulez pas qu'on modifie la cabane ?
Non, parce que...
Pourquoi on a mis cette règle ?
C'est pas... Parce que, en fait, parce que déjà, si quelqu'un, il veut modifier la cabane, et donc il arrache un bout de bois parce qu'il ne se trouve pas beau, c'est nous qui l'a fait ici. C'est pas lui qui l'a construit.
Donc, c'est une question de respect pour les gens qui ont construit la cabane. On ne la modifie pas.
Oui.
Est-ce qu'on peut modifier les statues qui sont dans la rue ?
Non.
Les pièces d'art dans les musées, est-ce qu'on peut les modifier ?
Les pièces d'art.
Les pièces d'art. Un tableau, par exemple.
Ah,
quand tu vas voir un tableau dans le musée, est-ce que tu peux le modifier ?
Non.
Donc, est-ce qu'on accepte les règles ?
Oui.
On accepte les règles ? Oui.
Non, c'est à eux, on a du
mal. C'est à vous trois. Est-ce que vous acceptez les règles ?
Oui.
Parce que sinon, on ne peut pas rentrer. Hein.
Oui.
Ok.
Oui.
Et on est en compagnie de Younes. Younes, tu as participé à l'atelier, mais tu as aussi participé à avant l'atelier. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu as fait ?
Je m'appelle Younes Elchanout et on a construit une cabane et on a fait que... On a, avec du bois et des tissus qui a déjà été utilisé, on a fait une cabane, on a fait de la peinture et on a argumenté pour faire notre cabane.
Et cette semaine, il y avait d'autres enfants qui n'ont pas construit la cabane et qui vont utiliser la cabane. Et c'était quoi l'idée ? C'était de leur faire comprendre les règles ? C'est ça que vous aviez établi ?
Déjà, c'est pour qu'ils savent que les punitions, parfois, ça avance à rien. Et de obéir à des règles et de comprendre les règles quand ils, euh,
quand ils disent, genre quand leur maman ou papa disent qu'ils doivent écouter, et pas désobéir, sinon ils ont une punition.
Et toi, qu'est-ce que ça t'a appris en fait de participer à cet atelier par rapport justement aux punitions ?
Il faut pas, s'il y a pas de règles, il y a pas vraiment de punition parce que on peut faire tout ce qu'il veut et qu'on a besoin des règles et que les punitions ça avance à rien.
Et comme à la maison, tu penses que tu vas appliquer ça à la maison ou pas ?
Oui.
Ben merci Younes.
Après la présentation de son livre, Tant qu'il y aura des prisons, on a pu interviewer Gwenola Ricordo, abolitionniste, militante et universitaire. Elle présentait aussi lors de ce labo chantier un podcast, La cabane des enfants qui n'aimaient pas les punitions, qui a donné lieu à un atelier pour les petits, animé par Andrea.
Bonjour Gwenola.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
J'ai eu une carrière académique à la fois en France et aux États-Unis. Dans le contexte du Trumpisme, j'ai démissionné l'été dernier de ma position de professeur associé en justice criminelle. Et voilà, parallèlement à cette carrière académique, je suis militante pour l'abolition du système pénal depuis plus de 20 ans, on peut dire. Je suis aussi féministe et donc engagée politiquement.
Qu'est-ce que l'abolitionnisme ? Comment tu le définirais ?
Alors, l'abolitionnisme pénal, c'est un vaste mouvement. C'est à la fois des luttes politiques, donc des luttes qui s'inscrivent dans le champ politique, mais c'est aussi tout un champ d'analyse qui vise à abolir le système pénal. Alors ça, c'est quand on dit les choses très rapidement. Après, on peut dire que la cible de l'abolitionnisme, c'est à la fois la prison, mais c'est aussi la police, c'est aussi le système judiciaire. Et ce mouvement, il est traversé par des désaccords, des débats. Donc tous les abolitionnistes ne sont pas d'accord sur la manière dont il faut agir pour aller vers l'abolition. Mais on peut dire que ce qui regroupe tous les abolitionnistes, c'est de penser que le système pénal pose plus de problèmes qu'il ne résout en fait ce qu'on appelle aujourd'hui la délinquance, la criminalité.
Vous dites également qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la prison et les crimes. Pourquoi et comment ça se fait ?
Oui, alors ça, c'est un mythe extrêmement puissant et on le voit si on écoute les médias. Dès qu'on parle de délinquance, de crime, on parle de façon très automatique, très naturelle des politiques pénales, donc du nombre de policiers, de la longueur des peines, de la sévérité des peines, de la sévérité des conditions de détention, comme s'il y avait un lien de cause à effet entre ce qu'on appelle la délinquance et les politiques pénales. En oubliant que, en fait, cette délinquance, cette criminalité, elle est façonnée par beaucoup d'autres facteurs beaucoup plus puissants, comme la répartition des richesses, des systèmes de domination que sont, par exemple, le patriarcat ou le capitalisme. Et donc, nous, abolitionnistes, on est aussi très critiques, en fait, des catégories qui sont utilisées comme le crime, les délinquants. Et voilà, et on appelle toujours à beaucoup de prudence lorsqu'on utilise ces catégories.
Et à qui profite justement cette organisation de la prison ?
Alors, on peut dire que le système pénal, il bénéficie et profite d'abord au capitalisme, au patriarcat, au suprématisme blanc, puisque c'est son bras armé. En fait, si vous vous attaquez à ces systèmes de domination, vous allez avoir affaire au système pénal. Les militants et militantes le savent bien à travers la criminalisation des mouvements sociaux. Et puis, on peut aussi désigner le fait qu'il y a des entreprises qui profitent directement, en fait, de la criminalisation de certaines personnes. C'est des intérêts privés qui sont liés à la prison, au système pénal.
Et enfin, quelles seront les alternatives, les solutions à ne plus avoir de prison ?
Alors, nous, en tant qu'abolitionnistes, on ne pense pas que dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, on puisse, entre guillemets, simplement remplacer la prison, le système pénal par autre chose, en fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est construire une société dans laquelle il n'y aurait plus de place, en fait, pour des approches punitivistes, donc des approches par la punition, que le système pénal n'aurait plus raison d'être. Pour reprendre l'expression d'Angela Davis, on voudrait que le système pénal il soit obsolète, hein, le mot est important. Et donc, c'est forcément un projet révolutionnaire. On ne peut pas, dans un système qui est capitaliste, patriarcal, structuré par le suprématisme blanc, juste retirer le système pénal et se dire en fait que tout ça pourrait continuer.
Alors, tout le long du week-end, on s'est baladé et Oumaima a récolté les avis, les réactions des passants et des personnes qui participaient aux débats, aux performances, aux conférences et qui visitaient les expositions présentées au Recyclart durant ce labo chantier.
Donc, je vais commencer par une présentation. Je vais vous demander de vous présenter.
Donc, moi, c'est Margot. Voilà, j'ai 34 ans et je travaille dans la prévention.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui écouter le débat ?
Parce que je suis fort intéressée aux questions de l'abolitionnisme. Et j'avais déjà écouté Gwendola à quelques années auparavant dans son autre livre. Et voilà, j'étais intéressée de l'entendre sur son nouveau livre.
Okay. Est-ce que vous avez un lien personnel avec la thématique qui a été abordée ?
Ben oui, quand même, puisque je travaille dans la prévention, donc on est lié à tout ce qui est... donc on travaille sous les contrats de sécurité et de prévention, donc on est lié à tout ce qui est criminalité, de réponse étatique à la délinquance, quoi.
Après avoir écouté le débat, qu'est-ce que vous en retenez pour la suite ?
Moi, je trouve que c'est intéressant de voir les subtilités qu'il y a dans les... dans le positionnement abolitionniste, que c'est pas juste un seul positionnement, mais que voilà, il y a différentes façons peut-être d'y arriver et différentes façons de le voir et de d'échelle aussi. Ça peut être centré sur la prison, ça peut être au niveau institutionnel. On a même parlé d'éducation à la fin. Donc je pense que c'est intéressant de voir toute la panoplie des théories abolitionnistes.
Je m'appelle Olivier, j'ai 42 ans. Voilà, je suis intéressé par le sujet évoqué aujourd'hui.
Donc la première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui écouter le débat ?
Le sujet du débat, hein, l'abolition des prisons, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Et puis l'autrice Gwendola Rigordo, que j'avais déjà entendue par ailleurs et dont j'avais déjà lu d'autres ouvrages.
Et vous venez d'assister au débat, qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange ?
Plein de choses intéressantes, principalement le fait que les différents types de luttes doivent coexister, que c'est pas parce que une personne est abolitionniste qu'elle ne peut pas collaborer avec une personne qui pourrait travailler en interne dans une prison et faire de son mieux, ou aussi, enfin voilà, de se dire en fait, c'est pas, il y a toute forme de radicalité est importante et que ça peut prendre différentes formes afin de d'essayer d'avancer dans un but politique commun.
Je m'appelle David, j'ai 47 ans et je suis bruxellois depuis toujours.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui de venir visiter la prison ?
En 2026, je trouve que l'état du monde pose beaucoup de questions et est sujet à de multiples inquiétudes. Et donc, je trouvais que ce qui était proposé aujourd'hui abordait une thématique qui me touche personnellement et qui doit tous nous interroger en tant que société. Comment est-ce qu'on sanctionne ? Comment est-ce qu'on punit ? Comment est-ce qu'on réclame justice ? Ce sont des thématiques qui me touchaient et qui, je pense, doivent nous interpeller toutes et tous à l'heure actuelle.
Est-ce que vous avez un lien personnel avec la thématique qui est abordée ce week-end ?
Non, pas du tout. On s'entend vraiment que citoyen conscient, que citoyen responsable, que j'avais envie de m'intéresser à ces questions.
Et qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui de la journée ?
Qu'on peut vraiment mieux faire, que la justice et la sanction et l'enfermement, comme ils ont été pensés jusque maintenant, nous montrent que c'est pas la solution et qu'il faut collectivement envisager d'autres solutions pour réparer, pour sanctionner, pour que la justice punitive en tout cas est dépassée et qu'il faut envisager un autre modèle.
Ok, donc je m'appelle Marjorie.
Et moi je m'appelle David.
Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui d'assister à cette visite ?
En fait, c'est Marjorie qui m'a invité. Je ne savais pas trop où j'allais mettre les pieds. Et quand je suis arrivé là, à l'entrée du Recyclart, On m'a dit c'est pour la prison, c'est pour la visite. Et en fait, j'avais pas tout à fait compris. Et donc, ce qui m'a poussé à venir, c'est parce que j'ai envie de mieux comprendre ce qui se passe en prison, ce que ça représente. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à quelque chose aussi fort.
Et moi aussi, j'étais intéressée par l'expérience immersive. Vraiment, j'étais curieuse de voir un peu le monde carcéral, parce qu'en fait, on n'entend vraiment pas parler, je trouve, et que bah là, tout cet événement, tout le week-end, hein, je crois que c'est, bah, ça m'a grave intéressée pour voir en fait les débats aussi, les réflexions. Et là, je pense qu'on a été tous les deux hyper fort impressionnés par la visite, et c'est hyper immersif, donc on peut se projeter, et enfin, c'était vraiment bien.
Est-ce que vous avez un lien personnel avec la thématique qui est abordée ce week-end ?
Non, pas spécifiquement. Après, on est psychologues tous les deux, donc je pense qu'on peut avoir des liens parfois où on travaille avec des enfants, et donc il y a parfois des parents qui peuvent être incarcérés ou avoir des proches qui sont incarcérés, et plus des jeunes en fait qui sont plus dans les IPPJ aussi. Donc oui, on a quand même un lien avec la thématique de ce week-end.
Oui, on travaille en santé mentale du coup. Donc ouais, c'est quelque chose qui nous intéresse en fait, le vécu des gens quoi.
Et qu'est-ce que vous retenez de cette journée ?
Ce que je retiens, c'est la dépersonnalisation, donc le processus vraiment de passer d'un citoyen, d'un individu à un numéro, un prisonnier. Voilà, et puis c'est ce côté détaché de la société, hors de la société commune que l'on partage toutes et tous.
Bah, je dirais la même chose, parce que je crois que c'est hyper marquant, comme c'est immersif, comme ça, on arrive et voilà, le premier stade, c'est vraiment, enfin la première étape, c'est vraiment la dissémination, comme ça, enfin la dépersonnalisation avec les tenues qu'on peut mettre. Enfin voilà, on se projette dans les tenues, qu'on est plus civil et qu'on reste en fait en cellule comme ça, sans rien en fait, finalement.
En écho du Labo Chantier de ce week-end sur les prisons, il y a un festival qui se prépare et on a l'occasion d'avoir Saïdi, l'organisatrice, avec nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, absolument. Du coup, moi, je suis Saïdi, j'organise le festival Ciel ouvert qui se passera à Pienne et Fabrique à Saint-Gilles, le 8 et le 9 mai de cette année. Et on va discuter la justice transformatrice. Et qu'est-ce que c'est la justice transformatrice ? C'est une approche qui vise à s'adresser non seulement à la violence comme quelque chose qui se passe entre une personne et la société, ou une personne et une autre, mais plutôt dans la société, dans une communauté, qu'est-ce que ça fait pour nous de vivre la violence et quelles sont les conditions qui créent la violence dans nos sociétés. Et donc, on va discuter comment s'adresser à cette violence qui se passe non seulement à l'extérieur des prisons, mais aussi dans les prisons pour les gens qui sont détenus. Et on aura plein d'associations qui font la justice transformatrice sur le terrain, ici, à Bruxelles, et aussi la justice restaurative. Et donc, vous pouvez vous inscrire en ligne à ciel-ouvert.be. Il y aura des ateliers, des discussions et aussi des performances. Et c'est totalement gratuit. Donc, si vous êtes intéressé d'y aller, n'hésitez pas d'amener toutes vos questions, vos amis et vos corps. Merde, ça fait pas de sens.
Tout de suite, l'interview des artistes qui ont imaginé l'autoscopie carcérale, un trajet sonore et ambiancé en bus avant la visite de la prison de Forêt.
Bonjour, on se retrouve dans le bar après une longue journée de travail pour nos artistes. On va leur demander de se présenter.
Salut, salut, moi c'est Jean-Baptiste et j'ai écrit le texte de la performance autoscopie carcérale.
Salut, moi c'est Bettina et j'ai composé la musique pour les rêveries post-carcérales.
Alors ma première question, c'est pourquoi vous travaillez sur ces thématiques ?
Moi c'est mon point d'entrée par rapport à l'enfermement, c'est mon engagement contre la crise de l'accueil en Europe Et en fait, j'ai été amené à m'engager contre les centres fermés et à partager ma vie avec des personnes sans papier en Belgique et comprendre l'enfer. Pour moi, c'est des camps de concentration et de déportation. Et j'ai décidé de m'activer contre ça.
Mais je rejoins ce que Jean-Baptiste a dit. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez voulu créer et comment vous vous êtes pris pour le faire ?
Alors, on a du coup, Jean-Baptiste a l'habitude de travailler avec un autre collectif qui s'appelle Désorceler la Finance, où ce format a été né via ce collectif-là. Donc, on a déjà travaillé ensemble sur un autre sujet en Suisse. Et puis, donc là, on s'est fait inviter et donc on a travaillé sur ce sujet-là de l'anticarcéralité. Donc Jean-Baptiste a commencé à écrire et puis on s'est coordonné ensemble en fonction des textes pour que moi je compose des choses en fonction de ce qui se passe dans l'histoire, de ce qu'on raconte.
Et du coup, moi ça fait tout un temps que je travaille sur les imaginaires parce que pour moi, ce qui nous arrive actuellement, il y a une panne d'inspiration, une panne d'imaginaire où on n'arrive plus à imaginer un autre monde que cet enfer capitaliste et autoritaire dans lequel on vit. Et du coup, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des imaginaires, libérer les imaginaires, réapprendre à raconter d'autres histoires qui sont pas celles du capitalisme et de l'autoritarisme. Et là, dans ce dispositif précis, donc il y a un aller qui est très dystopique, donc c'est un aller-retour, le dispositif. Et à l'aller, on visite un monde très proche, mais dystopique, où vous êtes amené à cause de vos revendications politiques et vos actions à être en prison. Et là, l'intention, c'est vraiment de ressentir l'empathie, comme quand, lors de la visite de la prison de Forêt, il y a quelque chose qui se passe où, en fait, si on n'a pas vu ce que c'est la réalité de la prison, on n'arrive pas à comprendre et on n'arrive pas à être empathique et se dire « ben non, en fait, ça, c'est inhumain et ça ne peut plus durer ». Et donc, du coup, l'allée dystopique qui est dure à vivre, il est là pour chercher à faire vivre de l'empathie. Et le retour, donc, qui est utopique, où on est dans un, où on visite, les participants, participantes visitent un monde sans prison, sans capitalisme, sans frontières, etc. Là, c'est justement pour libérer les imaginaires et penser l'impensable. Parce qu'actuellement, on n'arrive pas à imaginer un monde sans prison, sans police, sans travail capitaliste. Et donc, du coup, voilà, c'est pour libérer un peu ces blocages qu'on a actuellement dans notre société.
Comment vous avez intégré la dramaturgie à votre travail et à vos témoignages ?
Pour la dramaturgie, comme Bettina disait, c'est un format que j'ai déjà expérimenté avec d'autres et où le but, c'est un voyage mental. C'est comme une espèce de, pas d'hypnose, mais de méditation guidée, même si c'est pas du tout une méditation parce que des fois, c'est pas relaxant du tout. Et donc, du coup, ça, c'est un dispositif assez particulier. On est content parce que c'est un peu unique, personne ne le fait. Dans le milieu artistique et militant, en tout cas. Et donc, du coup, niveau de la structure narrative et dramaturgique, ce que je cherche toujours à faire, c'est un voyage mental. Et dans ce voyage mental, on va poser des questions. Donc, tu te relaxes. Et là, on récite un récit paysage. Donc, c'est le décor de l'histoire où tu vas te projeter par la pensée. Puis là, il y a une suite de questions pour que tu te construises ton personnage dans ce paysage. Et puis après, là, il y a les péripéties, ce qui va t'arriver. Et en général, j'essaye toujours que dans ces péripéties, dans ce scénario, il y ait une opportunité de faire un second voyage mental. Donc ton personnage fictif dans ta tête doit lui-même faire un voyage mental à l'intérieur de ton voyage mental. Et c'est ce jeu de poupée russe que j'essaye toujours de développer au niveau dramaturgique.
Et quel est l'objectif final de votre travail ?
Abolir les prisons, hein.
Abolir la prison.
Actuellement, en Belgique, on a 37 prisons, dont 10 maisons de peine et 3 maisons de détention. Donc, dans ces établissements-là, il y a uniquement des personnes qui sont condamnées à des peines définitives. On compte pas, en fait, les personnes qui sont dans des centres de psychiatrie légale ou dans des maisons de transition. On les compte pas. Et donc, en Belgique, actuellement, on a plus de 13 600 personnes qui sont détenues, alors que dans les années 90, on avait plus ou moins 6 500 personnes. Donc, on peut s'interroger sur l'augmentation de la population carcérale. Il y a déjà pas de corrélation entre l'augmentation des infractions et l'augmentation du nombre de personnes détenues. Les facteurs qui sont plus marquants, c'est davantage les crises économiques, les politiques carcérales et évidemment la création de nouvelles prisons. On l'entend beaucoup dans l'actualité, créer de nouvelles prisons, ça crée un effet d'appel d'air et donc on ouvre une place, et directement, on va la remplir. On n'aime pas, en fait, avoir des lits vides en prison. On aime bien que toutes les places soient occupées. Et c'est pour ça, c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles on a actuellement une surpopulation carcérale.
Moi, je peux faire peut-être un petit mot sur la situation carcérale ici à Bruxelles. Donc, la prison de Forêt a fermé en 2022 pour, vous le savez certainement, laisser place à la méga prison de Haren, donc appelée village pénitentiaire. Le but de la prison de Haren était donc de fermer la prison de Forêt, mais également de fermer la prison de Saint-Gilles qui est juste en face. La prison de Forêt a été fermée, mais la prison de Saint-Gilles, vous le savez peut-être, est encore ouverte aujourd'hui et est encore en surpopulation. Et la prison de Haren l'est également. Et donc pour la surpopulation au niveau national, donc comme Célestine l'a dit, il y a aujourd'hui plus de 13 600 personnes détenues en Belgique pour un total de 11 054 places. Donc vous imaginez bien que c'est des matelas au sol. Souvent les cellules sont en duo, mais ça on le verra, vous verrez quand on fera la visite à quoi ressemble une cellule de 9 mètres carrés. Les cellules sont souvent déjà en duo, donc c'est deux lits superposés et à ça s'ajoute un matelas au sol. Donc ça c'est pour un peu contextualiser ici en Belgique actuellement.
Voilà, donc on entendait le début de la visite de la prison de Forêt. C'était la prison de Forêt qu'on a pu avec Romuald visiter hier et que toi Oumeima, tu as pu visiter aujourd'hui, mais ce n'était pas une simple visite. Est-ce que tu peux expliquer, raconter ton expérience pour nos éditoristes, comment ça se présentait cette otoscopie carcérale qui est une véritable expérience immersive et artistique finalement. Est-ce que tu peux un peu réexpliquer ce que tu as vécu ?
Alors la visite, elle a commencé par la distribution de casques et de petits MP3 pour écouter. Donc la visite, elle a commencé dans un car. Donc on s'est installé et les animateurs ont posé d'abord le cadre. Donc ils nous ont présenté, ils nous ont dit de nous imaginer dans 4-5 ans. Avec la montée des régimes actuels, comment on sera en fait dans 4-5 ans. Et c'est nous, en fait, on doit s'imaginer qu'on n'est plus nous-mêmes, on est une autre personne, ou bien on est nous-mêmes, mais différemment, avec plus de recul ou pas. Et voilà, donc ils ont pris le temps de poser un cadre. On est en prison, on écoute des témoignages, donc des personnes qui ont été en prison et qui en parlent, qui parlent du fait qu'ils étaient shootés, drogués, par leur café matinal, le quotidien. Donc, être enfermé, c'était pas évident. Donc, ils posent tout ça pour nous, un peu pour nous préparer à ce qu'on va voir.
Donc, c'est une sorte de. Il y a une double voix. Il y a à la fois des témoignages, c'est ça, et oui. La voix des artistes qui
c'est
ont fait cette autoscopie carcérale.
Oui, on entend les deux voix. Donc, ils jouent avec leur voix, eux, et les témoignages qu'ils reçoivent. Donc, ça s'entrelace, si je peux dire ça. Et ça permet de bien nous mettre en tête qu'on va en prison. Donc, voilà.
Et toi, à ce moment-là, donc, quand t'as reçu ce témoignage, donc tu étais toujours dans le car, hein, tu as toute cette mise en situation, finalement. Comment est-ce que tu étais comment est-ce que tu te sentais ? Qu'est-ce que tu disais ? Donc, c'est pour le trajet qui va jusqu'à la prison. On entend tout ça. Qu'est-ce que tu te rappelles, ce que tu as ressenti ?
Oui, je m'imaginais, mais on va dire que ma prison, c'était une prison de luxe. Hein, ça n'avait rien à voir avec ce que j'allais voir là dans quelques instants. Donc, je m'imaginais une cellule, 9 mètres carrés. Bon, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc, c'est quand même assez grand, mon 9 mètres carrés. J'imagine avec une petite télé. Comme on voit dans les séries, finalement, ça ne serait pas du tout ce que je vais voir. Donc, même en essayant de poser ce cadre, qu'ils essayent de le rendre un peu noir, j'arrive pas, moi, à m'imaginer une prison vraiment comme je vais la voir.
Et puis, tu arrives à la prison de Forêt, et là, est-ce que tu peux expliquer un
peu ? Là, on observe d'abord l'architecture, donc c'est un bâtiment, comme on peut voir ailleurs, donc là, ça va encore, mais en entrant, c'est là que le choc commence, donc avec des cellules, l'espace qui est minime, les toilettes qui ne sont pas présentes, c'est des seaux. C'est là le plus grand choc, on va dire.
Et puis, comment ça se prononce, tout ça?
Donc, on commence par se réunir, on discute de ce qu'on voit, on reçoit des explications sur comment la prison a été organisée, donc les plus, on va dire, les plus dangereux, qui étaient catégorisés comme les plus dangereux, ils étaient en bas, et au plus on monte dans les étages, au plus on va dire que ils sont plus, ils sont plus, moins violents, donc c'était vraiment, ils étaient gradués, quoi.
Des plus dangereux en bas, moins dangereux en haut.
Exactement.
Ça c'est la visite. Et comment t'évolues, toi, par rapport à cette visite? Quel est ton ressenti?
Moi, je trouve que c'est de plus en plus lourd parce qu'on va visiter vraiment étape par étape. Donc on commence par les cellules et puis les parloirs qui sont aussi vraiment tout petits. On se demande comment ils ont fait pour vivre là-dedans, comment ça a été le quotidien de plein de gens avant ça et comment ils ont fait. Enfin, on se questionne de plus en plus. Donc il y a vraiment une réflexion de notre part qui naît.
Et puis après, donc là, la visite de la prison se termine. Et donc, peut-être on peut souligner que la visite de la prison se fait par une ASBL qui s'appelle 9 mètres carrés, qui est la taille d'une cellule de prison, qui est une association qui existe et qu'on peut contacter si on a envie de faire des visites, des dons, oui. D'abord, puis des visites aussi. Et puis, la visite se termine et puis retour en car.
Oui.
Et là, comment tu l'as vécu, toi?
Là, c'était un soulagement un peu de sortir parce que c'était quand même un peu étouffant de rester dans la prison et de visiter des endroits aussi sombres, se dire qu'il y avait des gens qui souffraient à l'intérieur jusqu'à novembre dernier ou octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez lourd, donc on sort, on se dit enfin, c'est la liberté. Donc on se libère un peu et dans l'autocar, donc c'est une autre atmosphère, donc c'est moins anxiogène que le matin. Donc là, c'est...
Que le départ.
Que le départ, pardon.
Que l'immersion sonore du
matin. Donc là, c'est plus calme, c'est plus agréable. On nous demande, enfin, les animateurs nous demandent d'imaginer un monde où on parle plus, on communique des solutions, des alternatives à la prison. Enfin, on est dans un autre climat où la discussion, le chant est plus privilégié. Donc c'est plus agréable à imaginer parce que le matin, c'est vrai que s'imaginer des choses aussi dures, c'était pas évident. Au retour, c'était plus agréable, on va dire.
Ouais. Et d'ailleurs, il disait, parce que tu as pu discuter avec eux hier, hein, là, malheureusement, ils ne sont pas là avec nous parce qu'ils sont dans un deuxième tour. Cet après-midi, il y avait un deuxième tour. Mais il parlait de la dystopie de l'allée, donc de ce que ça pourrait être terrible, en fait, ce monde tout carcéral où on pourrait tous finir en prison. Puis l'utopie du retour, en fait, de se dire, et si on imaginait un monde sans prison, en fait.
Oui, voilà. Après, je pense que eux, leur objectif, ça a été de vraiment semer la réflexion chez nous. Ils nous ont donné plein de pistes. Je trouve que c'était agréable à écouter. Donc,
et toi, qu'est-ce que t'en retiens?
Je retiens qu'il y a beaucoup de travail à faire. Que là, ce week-end, ça nous a permis de mettre des mots sur certains mots. Et donc, maintenant, on doit se bouger. Il y a plein de travail, il y a plein de choses à faire, en fait. Et donc, voilà. Donc, ce week-end, c'est vraiment... une piste, on va dire, c'est l'entrée, mais il y a tout un travail à faire. On doit continuer de sensibiliser, de faire des week-ends du même style. Continuer de parler de la thématique. Je trouve que ça est hyper important.
De la prison.
Oui, voilà.
Alors, je propose d'entendre maintenant Soufiane et Marwan, qui étaient aussi avec toi à la visite,
oui.
Qui ont dû, donc, comme on disait, partir, mais ils nous ont envoyé des petits vocaux pour parler de leur expérience.
Eh bien, bonjour, moi c'est Marwan, je suis cofondateur de l'association La Place. C'est une association de jeunes dans les quartiers nord qui a pour but de faire des activités aux jeunes dans les quartiers nord, des activités auxquelles de base ils ne penseraient pas à faire et auxquelles ils n'auraient pas accès. On a fait pour le moment beaucoup d'activités en extérieur, des événements extérieurs, des diffusions de films pendant Ramadan, des iftars, etc. Mais on fait aussi des activités un peu plus simples comme du bowling et ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion avec un jeune de faire la visite de la prison de Forêt. C'était une visite très intéressante. Elle était captivante. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, en tant que jeune, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux comme... pas vraiment quelque chose qui punit. on voit que c'est quelque chose où on est privé de liberté, mais on voit des fois des vidéos sur les réseaux sociaux, on voit des gens qui ont des PlayStation, qui ont des mini-cuisines, qui sont à manger, qui sont comme à la maison, on a l'impression. Mais aujourd'hui, avec cette visite, on comprend que c'est pas la réalité des choses. On a vu un endroit qui a été utilisé jusque 2022. C'est un endroit délabré. On voit que les conditions étaient très compliquées. Et du coup, ça fait réfléchir sur tout cet environnement carcéral. On a vraiment une fausse image de ce que c'est la prison, de à quoi ça ressemble la vie d'un prisonnier. Et c'est ça qui fait réfléchir. En tout cas, j'ai bien aimé, même, ça m'a même donné l'idée de faire ça avec plus de jeunes, revenir avec les jeunes de la place pour faire une visite seulement avec eux et avec l'équipe de 9 mètres carrés. Ça m'a donné vraiment une super idée. Et voilà. En tout cas, un tout grand merci à Isabelle, à toute l'équipe 9 mètres carrés pour cette visite qui était très enrichissante.
Donc voilà, c'est Soufiane. Donc je tiens à te remercier déjà pour l'invitation, à toi ainsi qu'à Isabelle. Franchement, c'était une expérience qui change un peu. On n'a pas l'habitude de la faire, des visites comme ça de prison, etc. Découvrir un peu le monde des personnes qui sont détenues, etc. On a souvent l'habitude de voir ça d'un côté plus cinématique, à la télévision, dans les films. Mais là, on a pu voir ça vraiment d'un côté plus profond. Les explications des guides étaient vraiment intéressantes. Et c'était quelque chose d'assez marquant. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte.
Et nous voilà de retour en studio. Donc c'était les témoignages de Marwan et Soufiane qui n'ont pas pu rester jusqu'à la fin. Oumaïma est restée avec nous. Elle est toujours là en studio. Oh oui. Puisque le labo chantier de ce week-end se termine doucement. Il y a des gens qui sortent d'une lecture qu'il y avait dans la grande salle. Et puis là, on est en compagnie de Fabrice Murgia.
Salut.
qui chapeaute tout ça de son œil artistique et qui va se présenter, qui va parler avec toi, Oumaïma, un peu présenter tout ce chantier, ces chantiers, ces différents chantiers. Voilà. À toi, Oumaïma.
Donc, comme l'a dit Isabelle, on va clôturer le week-end avec Fabrice Murgia. Bonjour, Fabrice.
Bonjour.
Je vais te demander de te présenter.
Alors, je suis Fabrice Murgia, je suis artiste, metteur en scène, comédien à la base. Je fais plutôt de la mise en scène aujourd'hui. Et il m'arrive aussi d'être directeur artistique de projets. Alors, ça peut être des événements, notamment des événements citoyens, mais également être à la manœuvre de programmation. Ici, notamment, j'ai dirigé le Théâtre National, par exemple, où j'ai fait de la programmation. Et ici, l'idée est de piloter un lieu sur le plan artistique, parce qu'on est beaucoup, j'expliquerai un petit peu comment fonctionne Bruxelles Laïque après, parce que c'est assez intéressant. Moi, je pilote un peu artistiquement des propositions en vue de la construction d'un nouveau théâtre, qui est la rénovation enfin d'un ancien cinéma que les Bruxellois plus âgés et Bruxelloises ont connu, qui est le cinéma des variétés. Voilà. Et donc là, maintenant, le cinéma des variétés, il est détruit. Enfin, il reste la façade qu'on va garder. Et on recrée un théâtre à cet endroit-là.
Merci. Est-ce que tu peux également parler un peu des labos chantiers?
Oui. Alors, les labos chantiers, comme on va ouvrir ce théâtre dans un an et demi, plus ou moins, le temps que le bâtiment se construise, on teste avec l'équipe de Bruxelles Laïque des propositions qui sont quand même des propositions hybrides. Entre des débats, conférences, films. On a un petit modèle quand même qui est le Festival des Libertés, qui est organisé depuis une vingtaine d'années par Bruxelles Laïque. Et l'idée, c'était en fait de faire un Festival des Libertés toute l'année, sauf qu'un festival ne se gère pas comme une programmation à l'année. Et en deux mots, si j'explique un petit peu ce qu'est Bruxelles Laïque, il faut savoir qu'il y a deux pôles. Il y a un pôle social. Alors là, il y a du travail de terrain en milieu social, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent par exemple apprendre le français, des cours d'alphabétisation, des cours de français langue étrangère, il y a une école de devoirs, il y a des services de médiation de dette pour des personnes qui n'arrivent pas à payer leur facture. Et à côté de ça, il y a un deuxième pôle qui est un pôle d'études et d'action politique qui va vraiment regarder ce qui se passe dans le pôle social et qui va aller parler de ces problématiques à destination du grand public. Et notamment à travers des événements, et notamment à travers le Festival des Libertés. Et là, on crée un troisième pôle qui va venir articuler avec des artistes des événements culturels entre ces deux choses.
Et comment sont choisies les thématiques que vous abordez, et particulièrement celles de ce week-end?
Alors, on a des thématiques qui sont assez récurrentes, parce que ce sont des endroits où la société frotte, enfin gratte. C'est-à-dire, par exemple, ici, on est dans un festival sur la prison, et il est clair que la prison, c'est un endroit de non-droit. C'est un endroit où il n'y a pas de loi, vraiment, en tout cas, qui échappe un petit peu à la démocratie. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, on s'y intéresse que si on a un problème, finalement, ou si on doit y faire un séjour. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à changer dans ce principe de prison. Alors, il y a d'autres thématiques, comme par exemple la question de l'IVG, l'avortement, voilà, tous ces endroits où on doit faire société un peu différemment.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la pièce « Je suis un voleur » dont vous avez présenté une étape de travail hier?
Oui, alors « Je suis un voleur », c'est l'histoire de Lutfi Chama, qui est un jeune homme, enfin, il a 45 ans, je crois. Il est venu me trouver parce qu'il voulait raconter son histoire. Il a une histoire assez incroyable et une histoire bien belge. Il a grandi dans les institutions de notre pays. À l'âge de 2 ans et demi, il a été placé. Il a été placé par des services sociaux suite à un petit événement lors de la perte de son père aussi. Il avait 2 ans et il grandit ensuite jusqu'à l'âge de 10 ans dans un préventorium. Un préventorium, c'était des endroits où à la base on mettait des personnes atteintes de tuberculose qui n'avaient pas contracté la maladie, mais également des enfants du juge, comme on appelle ça, ou des enfants à problème. Voilà, il y a une espèce de melting pot là d'enfants dont finalement on décide qu'ils iront là, au préventorium. Ensuite, il va dans un centre de soins, qui est plus ou moins dans une IMP, un institut médico-pédagogique, etc., 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 jusqu'à commettre des délits d'abord mineurs, des histoires de vol, etc., pour aller en IPPJ. Et ensuite, il continue dans sa fuite en avant, cette espèce de descente aux enfers, et il fait 13 ans de prison. Et donc, ce garçon connaît la liberté à 35 ans. Voilà. Et donc c'est fascinant parce qu'il n'a grandi que dans des couloirs. Même quand on a 7-8 ans, voilà, on n'a rien fait pour grandir dans des couloirs. Et son histoire commence aussi notamment par des violences vécues à ce préventorium, à Grès-d'Oiseau, préventorium de Biais, pour ne pas le citer, où il dérobe une banane, il avait faim, il a 5 ans, hein. Il pique une banane dans la cuisine. Et pour le punir, l'éducatrice le met à genoux dans la cour avec une pancarte « Je suis un voleur » pendant toute la matinée. Et voilà, le spectacle commence comme ça et on parle de cette prédestination finalement que la société lui donne, cette étiquette qui est la seule chose qu'on lui dit qu'il peut être. Et il fait une fuite en avant dans cette direction-là.
Et enfin, quels sont vos espoirs pour Variété dans le futur ?
Ah ben moi j'aimerais que le Variété soit un endroit toujours en mouvement. D'ailleurs on hésite à lui trouver un autre nom parce qu'en fait on veut un endroit qui cherche toujours son nom. C'est un laboratoire. Au début on l'appelait laboratoire artistique et citoyen. Il y a cette dimension un petit peu de se dire tiens on va voir des choses qui sont incomplètes, qui sont en travail avec beaucoup de discussions avec le public. Et on est un peu en train de chercher l'ADN de ça avec ces labos chantiers. Cette saison nomade et ça commence à se trouver et on commence aussi avec l'équipe de Bruxelles qui à la base, oui il y a le Festival des Libertés mais à la base le premier métier n'est pas forcément de créer des événements culturels et tout ça commence à bien se trouver.
Merci Fabrice.
Ah ben merci à vous.
Merci beaucoup. Mais voilà, on va pouvoir, merci Fabrice. Bonne suite, c'est pas tout à fait terminé, il y a encore un petit peu une petite fin de festival. On est sur la fin du Labo Chantier, là. On va presque pouvoir se reposer. Et donc on va clôturer tout doucement cette émission. Maïma, est-ce que toi, tu as t'as envie d'un peu faire la conclusion de tout ce que tu as pu traverser parce que tu as pu rencontrer les différentes personnes, peut-être avoir une autre vision de cet univers carcéral, une autre, puisque tu le disais juste avant que tu interviewes Fabrice, tu as visité maintenant une prison, la prison de Forêt, tu as rencontré Gwenola et l'abolitionnisme. Enfin voilà, on a traversé plusieurs choses pendant ce week-end. Est-ce que t'en retiens des choses en particulier? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton expérience à travers ce week-end?
Bah c'est vrai que ce week-end, moi, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Donc, en arrivant hier matin, On parle de prison, mais je ne savais pas vraiment ce qu'on allait faire. Donc, on repart avec un bagage, avec des informations en plus, parce qu'on n'en parle pas souvent. On dit qu'un tel a été en prison parce qu'il a fait une bêtise, et voilà, et c'est tout. Mais on ne creuse pas plus que ça. On ne regarde pas vraiment quel impact elle a la prison sur les personnes, qu'est-ce qu'ils font derrière les barreaux. Ils sont entre quatre murs, mais justement, on les sort un petit peu du... On n'en parle pas, on les jette un petit peu sur le côté. Je trouve que ce week-end, ça a permis de mettre quand même la lumière sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils ressentent. Donc, c'était assez intéressant. Et franchement, comme je l'ai déjà dit, j'encourage vraiment tout le monde à vraiment s'instruire sur le sujet. On doit s'éduquer là-dessus parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et justement, ce genre de week-end, ce type de week-end, bah, il favorise la réflexion. Et on part avec des informations et des idées. Et ils nous proposent des solutions, mais qu'on doit mettre en application ensemble. Donc, on repart avec un certain bagage.
Et s'il y avait une idée à mettre en application, ce serait laquelle ? La première à mettre en application.
Bah, déjà, ne pas penser que la prison... Il ne faut pas que la prison soit la première chose à laquelle on pense quand quelqu'un fait quelque chose. Il y a d'autres solutions. Donc, la prison, moi, je le vois comme ça, c'est tout le temps la première case. Mais je trouve que ça devrait peut-être être la dernière case. Il devrait y avoir un processus avant de
punir.
Ouais, voilà. Et on ne le retrouve pas forcément, ce processus. On met d'abord les personnes en prison et puis, une fois qu'ils sont habitués et certains ne veulent même plus sortir de prison, qu'on essaye de les remettre en société, mais c'est très compliqué.
Donc, un peu comme on disait tout à l'heure avec Gwenola, de revoir les règles, peut-être.
Oui.
Je pense comprendre pourquoi les règles sont là.
Je pense qu'il est nécessaire de faire ce travail-là. Après, on doit le faire ensemble. Donc, il faut qu'on soit unis pour changer les choses.
Bah, merci beaucoup, Oumaïma.
Avec plaisir.
Et merci d'avoir suivi tout ce week-end avec Radio Okaï, avec Variété, avec Labo Chantier.
Bah, merci à vous aussi.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne donc rendez-vous le mois prochain et le suivant pour la suite des aventures de Labo Chantier. Et puis surtout, si vous passez par le Train World les week-ends des 23 et 24 mai et par le Théâtre de Poche les 19 et 20 juin, venez découvrir le programme et nous dire bonjour. Toutes les infos sur ces week-ends sont disponibles, on vous le rappelle, sur le site de Variété, le-variété-au-pluriel.be. Et encore un petit mot pour vous redire qu'avec les photos de Vincent Beckmann, Radio Okaï est visible et écoutable jusqu'au 21 mai à Place Nord sur l'esplanade devant la gare du Nord. C'est l'expo auditive C'est pas dit, c'est le quartier Nord à écouter et à voir tous les jours de midi à 20h. Merci à la ville et à la région sans qui Radio Okaï n'aurait pas vu le jour, à nos copains cousins de Radio Campus sans qui nous serions sans ondes fixes, à Zineke, sans qui nous serions sans studio fixe, à Mual, sans qui nous serions sans ondes tout court, à Oumaïma et son professionnalisme, à Soufiane et Marouane pour leur soutien, et aux variétés pour sa confiance, et puis surtout à vous tous qui nous écoutez. Prenez soin de vous, repensez vos quotidiens, et on se tient en lien le mois prochain.